Sans plus attendre, nous allons passer la parole au dernier intervenant de la matinée, Monsieur Alberto Vial, qui travaille au Musée du Louvre auprès de Monsieur Martinez, président du Louvre, et qui va nous parler du rapport qui porte le nom du président du Louvre, qui s'appelle le rapport Martinez, et qui fait l'objet, je dois dire, du recueil d'idées de beaucoup d'administrations. C'est un travail collectif qui a été un travail de recueil. Ce n'est pas le travail d'un seul homme, même s'il porte le nom du président du Louvre. Donc Alberto, dès que vous avez terminé votre installation, nous allons vous passer la parole.
Très bien.
Monsieur Vial, vous avez la parole.
Donc, bonjour à tous. Et je suis conseiller diplomatique de Jean-Luc Martinez. Donc, j'ai essayé de l'assister dans l'élaboration de ces rapports, aussi avec le directeur de cabinet, Benoît Saint-Chamin, et avec les conseillers pour l'action territoriale, et Nicolas Faux. Mais surtout, nous, on a fait juste un travail d'audition et de récolter des propositions qui sont venues de plusieurs personnalités éminentes qui sont ici présentes, donc Bruno Favel, au ministère de la Culture, la Direction générale du patrimoine. Et on avait aussi Vincent Michel, bien sûr, pour les côtés fouilles, et France Desmarais, bon, et Philippe Marquis, qui est ici aussi. Et donc je vais vous présenter un peu les contextes dans lesquels ces rapports ont été élaboré. Je ne vais pas pouvoir m'attarder dans les différentes mesures, parce qu'il y a 50 mesures qui ont été proposées, mais le rapport est disponible sur Internet et vous pouvez le consulter. Et donc, ce rapport a été élaboré dans un contexte de grande instabilité au Proche-Orient, et comme vous le savez, qui a commencé juste il y a un an, avant que ça, mais les grosses destructions très médiatisées ont commencé il y a juste un an, février 2015. Donc d'abord en Irak, à Mossoul, Nimroud et Hatra surtout, et un peu plus tard, à l'été, à Palmyre. Donc dans ces contextes-là, François Hollande est venu au Louvre le 18 mars 2015 pour faire un discours et dire qu'il fallait tout faire, que la France devait tout faire pour préserver ses trésors de l'humanité. Et juste, je n'avais pas fait exprès, mais vous pouvez voir derrière un taureau ailé qui dans les deux photos, à Nimroud, là-haut, vous pouvez voir un taureau ailé qui est en train d'être détruit, et en bas, vous pouvez voir un taureau ailé qui a été préservé au musée du Louvre. Et suite aux fouilles de Paul-Émile Botta en 1840, à partir de 1843. Et donc, François Hollande est venu pour dire qu'il fallait tout faire pour préserver ses trésors. Et à ce moment-là, c'était surtout l'Irak qui était en ligne de mire. Et juste ce jour-là, le 18 mars 2015, il y a eu un attentat au musée du Bardo. Que vous connaissez tous, et donc c'était une coïncidence tragique. Et il y a aussi du personnel du Louvre au musée du Bardo ce jour-là, parce qu'on a une convention avec les musées du Bardo et on a un chantier école sur place. Et les personnels du Louvre n'ont pas été blessés, mais ils sont quittés les musées 10 minutes avant les attentats. Donc, dans ce contexte-là, François Hollande a envoyé une lettre d'émission le 29 juin 2015 à Jean-Luc Martinez pour lui demander de réfléchir à des mesures concrètes et opérationnelles pour mieux protéger les patrimoines. Et c'est des mesures qui seraient à disposition, qui mettraient à disposition de l'UNESCO et de toute la communauté internationale, et pour qu'on puisse mieux se coordonner et pour mieux protéger les patrimoines. Donc on peut se demander rapidement pourquoi il a demandé au Louvre de faire ces rapports, parce qu'il y a beaucoup de personnes très compétentes et qui auraient pu le faire. Et c'est tout d'abord parce que c'est un musée qui est au service de la protection du patrimoine depuis sa création en 1793, mais même avant, puisqu'il est siège des collections royales depuis 1682, depuis les départs du roi à Versailles. Et il y a un rôle de sensibilisation des grands publics, et puisque c'est le musée le plus fréquenté au monde, on reçoit en moyenne 10 millions de visiteurs par an, un peu moins en 2015 à cause des attentats, et avec une proportion très très importante d'étrangers, donc 78% en 2015, et donc ça a un rôle de sensibilisation et de la protection du patrimoine et qui est reconnu à niveau mondial. Et comme vous le savez, il y a 8 départements. D'abord, les départements dits modernes, peinture, sculpture, objets d'art et art graphique et en haut. Et en bas, les départements dits archéologiques avec antiquité égyptienne, antiquité grecque, étrusque et romaine. Et surtout, les deux plus concernés par la protection du patrimoine, et les départements des antiquités orientales dont on a l'ancienne directrice ici présente, et les départements des arts de l'islam, qui sont les départements les plus récents au Louvre, qui a été créé par un décret en 2003 et dont les salles ont ouvert en 2012. Okay. Mais c'est surtout, je veux dire, pas seulement parce qu'on a la directrice ici présente, mais c'est les départements des antiquités orientales qui est, il faut le dire, le département le plus important au Louvre en termes de nombre d'objets, et un des plus anciens, et qui a des collections qui sont vraiment au premier, qui ont des collections qui sont au premier niveau, au niveau mondial. Et donc ici, vous pouvez voir une image des fouilles de Paul-Émile Botta, qui a découvert Khorsabad en 1843 et qui les a apportés au Louvre. Et il a découvert Khorsabad en pensant, et Madame André Salvini pourrait raconter beaucoup mieux cette histoire, mais il a découvert ces sites en pensant que c'était les fouilles de Ninive, un peu comme Christophe Colomb pensait qu'il est arrivé en Inde. Mais il a découvert quelque chose de magnifique, donc l'Amérique, et c'est le site des Khorsabad, et qui a donné donc donné lieu à l'ouverture en 1847 du premier musée assyrien, et 5 ans avant le musée assyrien du British Museum. Donc à l'époque, il y avait une petite rivalité avec les musées anglais et allemand surtout, et rivalité qui n'existe plus du tout aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à l'époque, on était très fiers d'être les premiers à avoir ouvert ces musées assyriens. Donc pour toutes ces raisons, et aussi d'autres, actuellement, ça c'est l'histoire, mais aujourd'hui on a une expertise scientifique reconnue partout dans le monde, on a des partenariats aujourd'hui avec 75 pays, et dans différents domaines, des expositions bien sûr, mais aussi des fouilles. Là, vous pouvez voir des images de fouilles en Italie, à Gaby, et des expertises sur les domaines de la conservation, de la restauration d'œuvres, et la formation. Là, vous pouvez voir des images justement au musée du Bardo, avant les attentats en l'occurrence. Et donc là, il y a des stagiaires tunisiens qui apprennent à restaurer et à installer les œuvres de la salle de Carthage. Et aussi, le Louvre a une expérience à la sauvegarde d'œuvres, puisque, c'est une anecdote, mais il a dû vider ses salles au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et on est aussi préparé à une éventuelle inondation, puisque statistiquement, la crue centennale de la Seine devrait arriver dans pas longtemps. Donc on est bien préparé pour pour faire face à une évacuation d'urgence des sœurs. Donc avec tous ces éléments, et le Louvre était légitime pour donner des recommandations au président de la République, et avec beaucoup de contraintes, on avait un calendrier très très serré, puisqu'on devait rendre les rapports début septembre, donc on était fin juin, et donc on avait le mois de juillet, puisque le mois d'août était à moitié, pas parce que nous on voulait prendre des vacances, mais parce que les gens qu'on devait auditionner étaient en vacances, et n'étaient pas très, très productifs le mois d'août. Et donc avec un seul mois, on a réussi à négocier un mois de plus, donc on a rendu les rapports début octobre, mais il fallait quand même aller très très vite. Donc on a auditionné 60 personnes et au mois de juillet et un peu au mois d'août. Et il fallait aussi trouver des mesures opérationnelles et ne pas rester à un niveau des déclarations d'intention ou des vœux pieux, qui est très facile, mais parce que tout le monde, évidemment, est contre la destruction du patrimoine. Mais il ne s'agit pas de faire des déclarations, mais de trouver des mesures concrètes et opérationnelles, en sachant qu'on ne pouvait pas nous rendre sur place jusqu'à il y a 3 jours, à Palmyre, par exemple, parce que, concrètement, c'était trop dangereux et on ne pouvait pas se rendre sur place. Mais malgré ces faits-là, on devait trouver des mesures opérationnelles pour sauvegarder les patrimoines dans des zones en conflit. Et une autre difficulté, c'est la disparité des législations nationales et une multitude de conventions internationales qui sont, en plus de la multitude de textes, ils sont confrontés aux limites classiques du droit international, notamment la souveraineté des États, et parce que c'est les États qui ont ratifié les conventions les conventions s'appliquent aux États qui ont ratifié ces conventions, et normalement les États qui ont le plus besoin ne les sont pas ratifiés. Et aussi une dispersion des initiatives existantes de différents pays, de différents musées. Parce que parfois, on agit un peu en ordre dispersé, donc on perd beaucoup d'énergie et pour faire des choses qu'on aurait pu faire de manière concertée, de manière beaucoup plus efficace. Et aussi, enfin, je ne suis pas exhaustif, mais il y a aussi une autre difficulté, c'était une apparente opposition entre la protection des vies humaines et la protection des vieilles pierres, du patrimoine, qu'on nous reproche souvent. Comment, pourquoi vous vous occupez des vieilles pierres quand c'est beaucoup plus important la protection des vies humaines? Évidemment, les vies humaines sont beaucoup plus importantes et la protection des vies humaines doit être la priorité principale, mais la protection du patrimoine et de la culture ne s'oppose pas, mais elle est complémentaire à la protection de la vie humaine. Vie humaine, qu'autre parenthèse, est humaine parce qu'elle est culturelle. Sans culture, la vie n'est pas humaine. Mais bon, ça c'est une autre réponse à différents niveaux, mais enfin il y a plusieurs réponses à cette apparente opposition. Et on est un musée, on n'est pas un hôpital, donc chacun doit faire son rôle et son métier, et on doit avancer chacun à sa place. Et donc on a très vite établi une liste d'experts et grâce à l'aide de Philippe Marquis, entre autres. Donc, on avait des membres du gouvernement, du ministère de la Culture et du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, des diplomates, des ambassadeurs français en Irak, en Syrie, enfin pas tout à fait en Syrie, parce qu'il n'y a plus de postes diplomatiques de la France en Syrie, mais pour la Syrie, il est basé à Paris, et en Libye, etc. Et des différents directeurs de musées, les principaux musées au monde, donc l'Ermitage, le Metropolitan Museum à New York, le British Museum, les musées de Berlin, et aussi nos collègues parisiens qui ont été confrontés à cette question des protections des patrimoines, donc notamment la BNF, et aussi l'INP, l'INRAP, etc. Des universitaires et des directeurs de fouilles, donc plusieurs sont présents ici. Et l'OCBC, bien sûr, le colonel Erard, même si je n'ai pas eu la chance d'être à cette audition-là. C'était au mois d'août. Et moi, j'étais en vacances. Mais M. Martinez, non. Et donc, l'ICOM, bien sûr, et les boucliers bleus, et différentes entreprises comme AXA, Total, et le comité Colbert qui regroupe plusieurs entreprises du luxe, pour réfléchir à au financement de ces actions, ce qui était aussi un des aspects demandés par les présidents de la République. Et donc on a commencé les rapports sur un constat, c'était la destruction du patrimoine, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé, et comme les pillages, comme les trafics illicites, etc. Mais la destruction du patrimoine a été, c'est une constante dans tous les... Enfin, pas dans tout, mais dans beaucoup de conflits armés. Et la révolution totale, on voulait toujours effacer la mémoire du vaincu. Et on l'a vu même à la Révolution française. Et mais il y a beaucoup d'éléments nouveaux et qui n'existaient pas avant. Donc maintenant, la destruction du patrimoine ont un caractère systématique et planifié. Et ils sont lieux dans une région particulièrement riche et dense d'un point de vue patrimonial, puisque c'est les berceaux des grandes civilisations, les berceaux de l'écriture, etc. Et ces destructions ont lieu en même temps d'une prise de conscience de la valeur marchande des antiquités, donc ils sont accompagnés d'un commerce illégal des objets trouvés, comme source de financement de ces mêmes actions terroristes. Et ils sont accompagnés également d'une forte médiatisation comme un outil de propagande, notamment sur Internet. Et ils sont faits à l'aide des moyens techniques sophistiqués, très accessibles aujourd'hui, déjà pour les fouilles illégales, comme des détecteurs de métaux, comme des bulldozers, etc., des pelleteuses, des images satellites, bon, tout ce dont on a accès aujourd'hui. Et n'importe qui a accès à ces outils-là, donc ça facilite malheureusement la destruction du patrimoine et les pillages. Et on a commencé, après ces constats, on a fait une typologie des différents types de destructions. Et il y a des destructions qui sont un peu faites malgré les destructeurs, comme les cracks des chevaliers, qui n'a pas été détruit. Enfin, je ne vais pas... juger les intentions de ceux qui l'ont détruit, mais c'était détruit fruit des conduites des hostilités, mais ils n'ont pas voulu les détruire directement, c'était volontaire indirect. On voulait les détruire parce qu'ils étaient une cachette d'armes et des rebelles syriens, en l'occurrence. Et il y a un deuxième type de destruction qui est plus directement, enfin, avec lequel on est plus concerné, c'est le vandalisme idéologique. Donc, il y a l'exemple classique des Bouddhas géants, des Bamiyans, pardon, et qui ont ému les mondes en 2002, je crois. Et donc, c'est un peu les cas de la destruction des Palmyres ou des attentats du Bardo. Donc, c'est des symboles qu'on veut détruire parce qu'ils ne collent pas avec l'idéologie de ces groupes terroristes. Donc Palmyre, c'est le cas, enfin, c'est un cas exemplaire parce que c'est un lieu de syncrétisme, de croisement des civilisations où il y avait une reine Cénobie, une reine femme en plus, et au IIIe siècle. Donc c'est ces symboles-là que les groupes terroristes veulent détruire. Et pareil avec les Bouddhas ou avec les musées du Bardo qui montrent toute la profondeur de l'histoire de la Tunisie avec sa dimension numide, punique, grecque, romaine, etc. Donc au musée du Bardo, on trouve des baptistères paléochrétiens, on trouve des Torahs magnifiques. Donc c'est ces symboles-là aussi que les groupes terroristes veulent détruire. Donc ça, c'est les vandalismes idéologiques. Et un troisième type de destruction, c'est les pillages, dont on a beaucoup parlé, qui alimentent le commerce international des antiquités. Et là, je ne m'attarde pas sur les maquillages de l'histoire de ces objets, mais dont on a déjà parlé. Mais effectivement, pour pouvoir revendre ces objets, il faut les inventer, il faut leur inventer une histoire et un pedigree. Et il y a différents types, il y a des pillages un peu des subsistances, en fait, des petits pillages et des pillages plus importants et avec des pièces plus importantes, de plusieurs millions d'euros, dont on n'a pas vu encore les résultats parce qu'ils sont justement cachés parfois pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, le temps de leur inventer une histoire et de les rendre vendables. Et donc vous pouvez voir à gauche, une image du site de Dora Oropos en 2001 et plus en 2014 avec plein de petits cratères, des fouilles clandestines. Et un quatrième type de destruction, qui paradoxalement n'est pas le moins important, c'est l'abandon, parce que la nature est... Enfin, protéger les plantes, c'est très important, mais pas les sites de fouilles, parce qu'ils détruisent les sites archéologiques. Et aussi l'urbanisation sauvage, donc ça arrive, et notamment dans des sites où l'État n'existe pas vraiment, donc les sites sont restés à l'abandon, et il y a des destructions très importantes qui arrivent. Donc après ces quatre types de destruction qui sont pas ils ne sont pas exclusifs, normalement sur un site on a plusieurs types de destruction. D'abord on passe d'abord dans la destruction un pillage idéologique, et après on passe à un stade de pillage pour revendre des antiquités, et après on les laisse à l'abandon, bon, etc. Donc c'est... Et donc on a fait une cartographie de son droit les plus sans danger, et après on a fait on a recensé tous les dispositifs actuellement existants, notamment en matière de protection des biens culturels et en matière de lutte contre les trafics illicites. Je ne m'attarde pas parce que vous avez déjà vu ça ce matin. Donc il y a notamment la convention de l'AE de 1954 et le second protocole de 1999 qui n'a pas été ni signé ni ratifié par la France. Donc la première proposition, ça a été justement que la France ratifie le second protocole de la convention de l'AE. Parce que la France, s'il n'a pas ratifié ce protocole, n'est pas crédible pour demander aux autres pays de ratifier les instruments existants. Et donc la France doit être exemplaire en matière de protection du patrimoine. Elle l'a toujours été. Et donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui elle soit le mauvais élève et qu'elle ne ratifie pas ces protocoles. Et c'est en cours, c'est même imminent. Et parce que les réserves qui venaient surtout du ministère de la Défense ont été levées. Et aujourd'hui, la France est prête à ratifier ce second protocole. Après les mesures 3, 4, 5, je ne vais pas parler de toutes les mesures, mais les 3, 4, 5, découle de ce second protocole. Et aussi, on encourage la programmation de ces expositions mettant en valeur l'histoire des collections. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, la sensibilisation du grand public joue un rôle très important dans la protection du patrimoine, un peu comme on a parlé tout à l'heure des CITES et de la lutte contre les trafics des animaux, des tortues, etc. Dans les aéroports, on est tous sensibilisés à ça. On voit des images de tortues un peu partout dans les aéroports. Mais on doit faire pareil avec les antiquités. Et donc on organise, par exemple, le Louvre, on commence chez nous, et... Cette année, on va faire une grande exposition au Louvre-Lens sur la Méditerranée, sur le patrimoine méditerranéen, pardon. C'est une exposition de l'année dernière. Et sur la Mésopotamie, et ça commence par M, et pour montrer au grand public la richesse de ces patrimoines-là, et ces berceaux de l'économie, de l'écriture, des civilisations. Et... On participe aussi avec l'UNESCO, par exemple, la fin avril, à une semaine sur les patrimoines libyens. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je change les mots. Et c'est le patrimoine du Yémen, parce qu'aujourd'hui, il y a des destructions très importantes au Yémen, dont on n'en parle pas. Et donc, le Louvre participe et il a créé, mis en place trois vitrines dédiées au patrimoine yéménite, avec, en partenariat avec l'UNESCO et avec les grands musées universels. Et ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est donner les instruments à la communauté internationale pour se mobiliser et en faveur de la protection du patrimoine, donc notamment avec peut-être une nouvelle convention UNESCO, et un fonds de dotation est placé au sein de l'UNESCO idéalement pour financer les différentes initiatives de manière coordonnée. Et un fonds de dotation permet de pérenniser ce financement. Et je passe rapidement sur cet axe-là. Et après, il y a trois axes destinés à combattre les trafics illégaux et à protéger les patrimoines bâtis sur place, qu'on ne peut pas déplacer. Et le dernier est protéger les patrimoines et protéger les patrimoines des musées, les collections des musées, et renforcer les coopérations avec les musées. Donc l'axe 3 est contre les trafics illégaux. Il y a entre autres mesures, par exemple permettre la création d'un musée des saisies, et parce qu'aujourd'hui les objets qui sont saisis par les douanes et restent normalement, on peut pas les, ils sont un statut qui ne permet pas d'être exposés, d'être intégrés dans les collections d'un musée, mais c'est important de pouvoir les exposer, pouvoir les étudier pour déjà trouver leur provenance, parce que c'est pas évident, une statue romaine qui vient de la Libye, ça peut venir du Liban, ça peut venir de la Tunisie, on voit pas exactement, enfin même les experts ne peuvent pas les identifier facilement, donc c'est important de pouvoir les étudier, et ça, ce dispositif-là va être intégré. Il y a un cadre juridique qui va être créé pour permettre cette exposition temporaire des objets saisis par la loi création dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi organiser des expositions itinérantes à partir des œuvres saisies, mais aussi avec les patrimoines des... Bon, je m'arrête pas là, parce que je prends une mesure qui était là, dans l'axe 5, c'est de permettre d'exposer, d'accueillir des collections, des musées qui sont dans des zones en danger, donc par exemple en Libye ou en Irak. Ce n'est pas du néocolonialisme, c'est parce que souvent, c'est ces musées-là qui nous demandent d'accueillir ces œuvres-là. Donc, on a eu un cas récent de la Libye et qui nous a demandé au musée du Louvre de pouvoir garder au Louvre des œuvres qui ont été saisies aux États-Unis, qui venaient d'Israël, bref. Et parce qu'ils se sentaient pas, enfin, ils sentaient qu'ils n'étaient pas en sécurité en Libye en ce moment. C'est dans cette logique-là, pour mieux les protéger, pour les faire connaître, et aussi pour récolter des fonds pour la protection des patrimoines de ces pays-là, qu'on propose d'accueillir ces œuvres-là et les exposer au grand public. Mais à leur demande et avec leur accord, bien sûr. Il y a une mesure 22, par exemple, je passe rapidement, mais on propose de créer une liste noire des paradis du recel. On a parlé de la Suisse tout à l'heure. Parce que les ports France et des endroits où on peut cacher des œuvres pendant des années sans que personne sache qu'est-ce qui se trouve dedans. Et donc ce rapport a été communiqué officiellement par les présidents de la République le 17 novembre 2015 à l'UNESCO, et le 18 novembre, donc 24 heures après, et la Suisse a annoncé qu'il allait renforcer les contrôles des ports francs et qu'on ne pouvait plus garder des pièces plus de 200 dans les ports francs. et que voilà, et c'est donc c'est un, ce n'est pas forcément fruit du rapport, mais c'est pour dire que ce système de name and shame, de créer des listes noires, marche. Après, la mettre en place, ce n'est pas évident, il faut aller encore de plusieurs pays. Mais on a déjà reçu une délégation du département d'État américain qui est venue au Louvre pour féliciter Jean-Luc Martinez pour son rapport et lui dire que cette mesure, concrètement, des listes noires des paradis du recel, les avait beaucoup intéressés, ils n'avaient jamais pensé à ça, et ils voudraient travailler ensemble avec la France pour pouvoir mettre en place cette liste noire. Et il y a d'autres... L'action numéro 23, enfin la mesure 23, par exemple, d'harmoniser et simplifier la réglementation européenne, c'est des mesures qui ont déjà fait son chemin. Et le 24 novembre, par exemple, le Conseil des ministres culture de l'Union européenne a traité de cette question-là, enfin de la protection du patrimoine. Et quelques jours après, le 7 décembre, la ministre de la Culture française, allemande et italienne, ils ont envoyé une lettre à la Commission pour demander un nouveau règlement pour contrôler les biens à l'immigration et harmoniser à l'importation, pardon, et harmoniser la réglementation des différents pays dans le domaine des circulations de biens culturels. Et donc le deuxième axe de ces trois derniers, donc le quatrième, est consacré à la préservation du patrimoine sur place. Donc là, j'ai mis des exemples des reconstructions en Dresde et en Russie et pour montrer qu'à partir de quelques pierres et de quelques exemples, par exemple en Russie, quand on a abandonné les palaces avant la révolution, on prenait juste une chaise pour pouvoir la reproduire ensuite, la copier, et un bord de fenêtre et on partait. Enfin, tous les châteaux tenaient dans une charrette. Et à partir de ces éléments-là, avec des plans, des archives, etc., on pouvait reconstruire les palaces à l'identique après ce qui a été fait. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut aussi reconstruire. Palmyre peut être reconstruite. D'ailleurs, ce qui existait avait déjà été reconstruit à partir des fouilles. C'est des anastyloses, donc c'est des choses qui ont été fouillées. Et à partir de ça, on a reconstruit ce qu'on voyait à Palmyre. Et en plus, à Palmyre, il faut savoir qu'il y a les deux tiers des palmyres qui n'ont pas encore été fouillés. Donc il y a potentiellement des grands trésors encore cachés. Et donc on peut reconstruire ce qui a été détruit et aussi on peut reconstruire de manière virtuelle avec la technologie actuelle. Donc là, il y a un exemple de quelque chose qui fait la société Iconem, qui est assez impressionnant, avec des photos prises par les gens. Enfin, ils récoltent des photos, ils prennent tous les archives qui existent sur un site, les plans et les élévations, et ils mettent ça dans un logiciel qui mouline toute cette information et crée une image en 3D d'une reconstitution virtuelle d'un monument qui a été détruit ou pas, d'ailleurs. Et donc, il me reste une minute. Je vais juste parler du renforcement des rôles des musées universels, qui sont des gardiens du patrimoine, des passeurs d'histoire, et dont les rôles ont été critiqués parfois, mais aujourd'hui retrouvent tout son sens. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire au Louvre à Abu Dhabi, au sein même du golfe persique, et où c'est important qu'un musée et qu'un pays au sein du golfe persique puisse montrer que enfin, puisse montrer que les musées universels ont un rôle à jouer aujourd'hui. Donc on propose une grande conférence internationale au Louvre, à Abu Dhabi, réunissant les dirigeants des musées universels pour réfléchir ensemble à la protection du patrimoine dans ces zones-là. Et tout à la fin, il y a une petite surprise. Donc c'est une image qui vient du musée national de Bagdad. Donc qui a été trouvée, cette tête-là a été trouvée en plusieurs pièces. Donc, d'abord on a trouvé ça, après on a trouvé ça. Donc il avait été découpé en morceaux. Et les douanes l'ont retrouvé par différents morceaux. Et on réussit à l'intercepter. Et il a rapatrié au musée national d'Irak, qui a été visité. Enfin, Jean-Luc Martinez est allé sur place, c'est lui qui a pris cette photo d'ailleurs. Et normalement, il n'a pas l'autorisation de montrer les photos qu'il a prises, mais moi j'ai pris la liberté de vous la montrer parce que les Italiens ont déjà pris cette photo. Enfin, cette pièce-là, elle a circulé partout sur Internet, donc. Et je me suis dit que ce n'était pas si confidentiel que ça. Et donc, pour vous montrer qu'il y a des choses à faire, et cette pièce, évidemment, doit être restaurée, mais il y a beaucoup de choses à faire et tout n'est pas perdu.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention qui nous montre justement la mise en œuvre concrète d'intervention. On reviendra un peu cet après-midi. Ouais. J'avais prévu de reparler un petit peu de tout cela. Y a-t-il des questions? Très vite, une question.
Oui, très vite. J'aurais juste une petite question qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin. C'était dit dans la presse il y a peut-être un mois de ça, dans un camp de migrants en Slovénie, si je ne me trompe pas, une ou plusieurs statuettes dont je n'ai plus le chiffre en tête, ont été découvertes donc dans une tente dans un camp de migrants. Comment, au niveau des douanes et de l'ICOM, on peut, et bien sûr au niveau de la police judiciaire, on peut traiter ce type d'objets qui sont évidemment, bien évidemment, à me mener d'Irak ou de Syrie et qui suit donc la route dite des migrants.
Colonel.
Alors, deux mots alors, parce que je crois que j'ai pris beaucoup de temps en fait. Non, en deux mots, oui, on le sait, les migrants arrivent avec des choses dans les poches. J'ai donné une explication parmi tant d'autres. Hein. C'est pour eux une monnaie. La solution, il n'y en a pas beaucoup, parce que le migrant qui arrive avec ça, sa situation n'est déjà pas facile. Remonter une filière, elle est quasi inexistante, ou alors, voilà. Donc je crois que là, on est plutôt dans le côté douanier. Les outils sont du côté des douanes, on saisit, on confisque et on met à l'abri en attendant. Puis là, on revient sur ce qui a été dit justement dans les mesures du Louvre et les propositions. Enfin voilà. Mais pour moi, on est, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas dans le réseau criminel organisé. On est dans l'opportunité d'avoir en poche quelque chose qui est monnayable. Voilà. Et qui va permettre de survivre. Ce qui ne veut pas dire que certains profitent peut-être pas, mais on a vu avec les terroristes, avec les attentats, que certains terroristes ont profité. Bon, bref.
Merci à vous, nous allons nous séparer. Juste un mot pour l'espace Pierre Mendès France, puisque Pierre Mendès France est un homme politique important. Et lorsque j'avais l'âge des étudiants, Pierre Mendès France était venu à Sciences Po Lyon faire une conférence. Il était à la fin de sa vie. Et nous avait parlé de tout son parcours politique et de son œuvre. Donc il y a des liens historiques parfois, il y a des noms qu'on fréquente chaque jour. On ne sait plus qui est la personne. C'était une très belle personnalité politique. Voilà, nous nous retrouvons cet après-midi.
Merci, monsieur. À tout à l'heure.
14h15. Il était à la fin de sa vie quand je l'ai vu.
Ah oui.
Quel bazar.